fait un petit essai.
Allez. Faut que ce soit assez dégueu, contracté, hein, que ça fasse pas trop lecture non plus.
C'est bon ? Je pense que c'est bien.
France, 1970, environ. Daniel Charles, musicien, philosophe, s'entretient avec John Cage, compositeur. Silence, son, musique, composition, hasard, anarchie. Autant de thèmes de conversation pour aborder l'univers Cage. Une mise en voix par Étienne Noiseau et Jean-Marc Montera de Pour les oiseaux, réédité en 2002 aux éditions de l'Herbe.
C'est seulement après la guerre que l'accès nous a été donné, en France du moins, à l'univers des bruits, auxquels vous pensiez dès 1935. Et il s'agissait de bruits enregistrés. Il faut donc considérer comme prémonitoire votre texte de 37 sur l'avenir de la musique. J'y remarque le premier emploi, bien avant que Schaeffer ait découvert ce terme, de l'adjectif expérimental, pour qualifier cette musique de bruit. Vous évoquez la possibilité d'instituer des centres de musique expérimentale dans lesquels les compositeurs trouveront l'appareillage électroacoustique nécessaire à leur travail.
C'est vrai. Quelques années plus tard, ce devait être entre 1941 et 1942, j'ai passé des mois, un an même peut-être, à tenter de fonder un centre de musique expérimentale. Je disposais à ce moment d'assez d'informations sur la technique électroacoustique pour penser sérieusement au développement d'une musique qui ne laisserait rien perdre de cette nouvelle possibilité de production sonore. On ne parlait pas à cette époque de magnétophone et de phonographe cinématographique. À l'aide de ces caméras d'un type particulier, on se proposait de prélever des sons, d'en constituer des bibliothèques et de composer à partir d'éléments ainsi stockés. C'est ce qu'a permis la bande magnétique. D'abord, on pensait que ce résultat pourrait être obtenu par des films. Bien entendu, tout cela n'est devenu réellement opérationnel qu'après la guerre, avec le développement de la bande magnétique.
Toujours dans ce texte de 1937, vous suggériez de remplacer le mot « musique » par l'expression « organisation du son ».
Oui, le label « musique » semblait tellement réservé à ce que l'on pouvait faire avec des instruments inventés ou perfectionnés au XVIIIe siècle, que même les inventeurs d'appareils musicaux électriques ne savaient qu'imiter des instruments musicaux. C'est du reste un phénomène à peu près universel. Toute invention technologique, au lieu de commencer directement par prendre sa forme définitive, se met à copier pendant quelques années les inventions précédentes. Les voitures ont été des charrettes avant de devenir des voitures. De même, les instruments électriques ont d'abord servi à reproduire des sons traditionnels qui étaient pourtant des sonorités usagées.
Admettez-vous l'idée d'un solfège concret ?
Qu'est-ce que cela peut bien signifier ?
La doctrine schaefferienne prescrivait dans les années 50 de classer les bruits selon un certain nombre d'exigences taxinomiques, susceptibles d'autoriser une lecture, un déchiffrement des plages sonores les plus diverses. Tout cela devait permettre, selon Schaeffer, de composer de façon moins surréaliste, plus organique.
Je crains fort que nous retombions avec un tel effort d'organisation dans le processus même de copie de l'ancien dont nous avons parlé. L'idée même d'un solfège des bruits contient le mot solfège, n'est-ce pas ? Et quoi de plus usagé que cette notion ?
Le solfège se réduirait alors, selon vous, à un héritage compromettant des 18e et 19e siècles ?
C'est à peu près cela. Vous voyez, ce qui m'a toujours mis mal à l'aise dès les débuts avec le travail de Schaeffer, c'est son souci des relations et des relations entre les sons. Il avait à sa disposition des machines. Il a sans cesse cherché à les utiliser de façon telle qu'elles lui donnent des relations entre les bruits et la tonalité. Cela a toujours été son problème. Par exemple, avec le phonogène, qu'il avait prévu comme devant aller à 12 vitesses différentes, comment voudriez-vous avec cela qu'il ait pu déboucher ailleurs que sur un système à 12 sons ? Même s'il proclamait qu'il n'en voulait pas, avec le solfège, c'est encore le même problème. C'est un outil mental et non un appareil, mais le résultat risque fort d'être le même. On retombera fatalement sur les sons au sens musical du terme, c'est-à-dire sur des bruits qui ne peuvent aller qu'avec tel ou tel bruit et non pas avec tel ou tel autre. Or, ce que j'ai voulu réaliser, c'est juste le contraire. Non pas la répétition d'une situation à laquelle nous sommes habitués et qui peut bien rester ce qu'elle est sans que nous sentions obligés d'intervenir, mais une situation entièrement nouvelle, dans laquelle n'importe quel son ou bruit puisse aller avec n'importe quel autre.
Ce que vous appelez une situation expérimentale.
Oui, celle dans laquelle rien n'est sélectionné d'avance, dans laquelle il n'y a pas d'obligation ni d'interdit, dans laquelle même rien n'est prévisible.
C'est une situation d'anarchie.
Certainement. Thoreau l'a décrite clairement lorsqu'il a substitué à la maxime de Jefferson selon laquelle le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins, celle-ci, le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout.
Vous situeriez donc Schaeffer du côté du gouvernement ?
Je pense que nous ne nous entendons pas, lui et moi, sur la différence entre le nombre 2 et le nombre 1. J'ai toujours essayé de penser la pluralité du chiffre 1, alors que pour Schaeffer, la pluralité ne commence qu'avec le chiffre 2.
Voulez-vous dire qu'avec le chiffre 2, on en reste au stade des relations entre les objets ?
Pour plus de clarté, reprenons l'exemple de la musique expérimentale. Jadis, on imaginait que la musique n'existait d'abord que dans l'esprit des gens, et en particulier des compositeurs. On l'écrivait et on était censé l'entendre avant qu'elle devint audible. D'après moi, au contraire, on n'entend rien avant. Le solfège est justement la discipline qui permet d'entendre un son avant même qu'il ait été émis. Seulement avec cette discipline-là, on devient sourd. On s'entraîne à n'accepter que tel ou tel son et non pas tel ou tel autre. S'exercer au solfège, c'est décider a priori qu'on trouvera pauvres les sons de l'environnement. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de solfège concret. Tout solfège est par nécessité, par définition, abstrait. Pour le solfégiste, tout son de l'environnement est mutilé. Vous comprenez alors pourquoi je n'éprouve pas le moindre intérêt pour le solfège. Je ne me suis mis dans la tête aucune idée de perfectionnement des sons, aucun parti pris d'amélioration de la race sonore. Je garde seulement mes oreilles ouvertes.
Permettez-moi de vous citer « Happy New Ears ».
C'est cela. Je maintiens mon esprit vif, en alerte, ou du moins j'essaie. Résultat, tout ce qui est dissonant, je l'entends comme consonant. Je n'entends pas seulement le chiffre 2, mais la pluralité du chiffre 1.
Il y a tout de même une différence.
Bien sûr, il y a une différence. Mais elle n'est pas telle qu'il faille l'approcher en termes de valeur. Ce que j'essaie d'approcher, c'est le son en lui-même, tel qu'il est.
Non, tel que vous voudriez qu'il soit.
Non, tel qu'il devrait être. Et je crois que cela réussit mieux pour des sons qui ne sont pas de la musique au sens 18e et 19e siècle que pour les sons qui sont de la musique.
Vous êtes un musicien parfaitement concret.
N'en déplaise à Schaeffer, oui. Ce qui rend les sons abstraits, c'est qu'au lieu de les écouter pour eux-mêmes, on se contente d'écouter leurs relations. Autant vaudrait, comme je l'ai dit un jour, exprimer une idée musicale avec des lumières.
Certains compositeurs y songent, certains le font.
Ouais, ou avec des pommes.
Je reviens à la notion de gouvernement dont nous parlions tout à l'heure. Que pensez-vous des analyses marxistes que l'on a parfois proposées à l'endroit de certaines de vos œuvres ? Dans la substitution d'un danseur, Merce Cunningham, au chef d'orchestre traditionnel, lors de la création de votre Concert for Piano and Orchestra, le critique allemand Heinz-Klaus Metzger a cru deviner l'anticipation de la Révolution. Le but de la révolution n'est-il pas de tuer le chef d'orchestre qui dirige le monde, c'est-à-dire le capitalisme ?
Malheureusement, pour cette analyse, je crois bien que l'utilisation que je fais du chef d'orchestre dans mon concert de 58 n'est pas une caricature. Ce n'est pas celle d'un chef, d'un leader, mais d'une utilité. Prenez un orchestre. Si chaque musicien avait une montre, et si la coordination pouvait se faire, il n'y aurait nul besoin d'un chef d'orchestre. Mais les musiciens n'ont pas de montre. Il vaut mieux disposer d'au moins une personne qui en ait une, c'est-à-dire un chef d'orchestre qui en soit une. Tout cela suppose un temps mesuré, battu régulièrement, le temps d'un travail. Alors j'ai ajouté ceci à mon concert. Il fallait aller à des vitesses différentes. Si vous n'avez pas un chronomètre de précision, qu'une horloge régulière, vous n'obtiendrez jamais qu'une seule vitesse. Mais avec un danseur qui scande un temps irrégulier, tout le monde peut se sentir libéré du temps des horloges. Et avec un petit surcroît de technologie, nous pourrions facilement obtenir une horloge mécanique donnant toute une variété de vitesses. Ou encore, comme l'a dit Wittgenstein, nous obtiendrons une règle qui ne serait pas droite. Nous sortirions définitivement de la mesure. Ma solution dans le concert for piano and orchestra n'est pas encore technologique. Elle est artisanale.
Est-ce à dire que vous récusez toute interprétation politique de vos activités ?
Qui dit politique dit gouvernement. Et j'ai affirmé souvent que s'il y a bien une chose inutile, c'est le gouvernement. Fuller l'a resté exprimé mieux que moi. Si nous prenions tous les politiciens, chefs de gouvernement, ministres et autres bureaucrates, si nous les lancions sur la Lune, tout irait probablement aussi bien, sinon mieux, en tout cas pas plus mal qu'en les gardant, tandis que si nous précipitions sur la Lune les techniciens qui ont la charge des utilités, nous aurions très vite à en souffrir. Ainsi, nous n'avons nul besoin de gouvernement, pas plus que de politique. Ce matin, dans le Figaro, quelqu'un du gouvernement a dit que la raison profonde pour laquelle il y a quelque chose comme un État réside dans la nécessité de protéger les faibles de l'emprise des forts. Que signifie en réalité cette formule ? Que l'État a pour mission de protéger les faibles qui sont devenus riches contre les forts qui sont pauvres. Ne pensez-vous pas que c'est cela le véritable sens de la phrase ?
Sans doute, mais si vous le dites, ne faites-vous pas déjà de la politique ?
Pas du tout. Je ne fais que constater un état réel. Si je faisais de la politique, cela voudrait dire que je cherche à imposer un gouvernement selon moi meilleur. Mais il n'y a pas de gouvernement meilleur.
Ce que vous dites là ne vous sépare-t-il pas de tout le marxisme ?
Quand je dis qu'il n'y a pas de gouvernement meilleur, cela ne signifie pas que le gouvernement actuel est bon. Cela implique que tout gouvernement, quel qu'il soit, est à rejeter. C'est le fait de gouverner qui est à supprimer. C'est pour cela qu'il faut lutter, et cette lutte doit se faire dans tous les domaines. Le plus important est celui de la technologie. Thoreau ne dit pas autre chose. Vous savez, il y a de la technologie chez Thoreau.
Vous dites qu'il y a de la technologie chez Thoreau. Il est pourtant célèbre pour sa haine de la civilisation. Il s'indignait à l'idée que l'eau de son étang pourrait alimenter la ville de Concord.
Mais sa vie à Walden a été extrêmement furieuse technologiquement. Il a eu le premier l'idée de fabriquer un crayon plutôt que d'en serrer une mine entre deux petites pièces de bois. Et s'il ne souhaitait en réaliser que deux ou trois exemplaires, son idée était que nous possédons des objets techniques de travers. Par exemple, on se sert de train, on voyage, et qu'a-t-on fait pour cela ? On a seulement payé son billet. On ne sait pas ce que c'est qu'un chemin de fer. Il y a un usage légitime des objets techniques, celui qui consiste à les façonner, ou à les approcher d'assez près pour en comprendre les possibilités. Thoreau supportait très bien qu'il y eût des chemins de fer, et même tout près de chez lui. Mais il savait gréer son bateau et lui confectionner des voiles. Il s'est exercé constamment et brillamment à toutes les formes de travail manuel. La technologie n'était pas de son temps, vers le milieu du 19e siècle, ce qu'elle est devenue. Mais à son égard, nous ne suivons pas l'exemple que Thoreau nous donne. Nous pourrions faire beaucoup plus, étudier de près les objets techniques, vivre avec eux, n'être pas prisonniers de notre entourage technologique, abolir cette prison-là aussi.
Si maintenant je transpose sur le plan du langage tout ce que vous venez de dire, il me semble que Thoreau n'est pas moins fascinant lorsqu'il écrit, lorsqu'il libère les mots. N'y a-t-il pas chez lui le souci de désenclaver les mots ? Et ce souci, ne l'avez-vous pas repris à votre compte ? Si vos conférences, par exemple, sont des œuvres musicales.
Elles le sont lorsque les sonorités sont des mots. Mais il faut dire que je n'ai pas jusqu'ici porté le langage au point où j'ai porté les sons musicaux. J'en ai pas fait du bruit. J'espère en faire autre chose qu'un langage.
Comment comptez-vous y parvenir ?
C'est cet aspect, l'impossibilité du langage, qui m'intéresse à présent. Je suis en train de travailler sur ce problème. Je le fais dans un texte récent, droit issu des songbooks, qui traite directement des lettres, des syllabes, etc. C'est un mixage que vous pourrez l'appeler un Thoreau-mix. C'est mon tout dernier texte.
Déjà, vous inventiez dans le songbooks tout un langage, du faux français.
Ce que je tente à présent va dans la même direction. Je m'y prends de différentes façons avec le langage pour arriver à un discours qui paraisse avoir un sens. Un jour, j'ai donné ce Thoreau-mix sous forme de conférence. Cela a duré 40 minutes. Eh bien, le résultat n'a pas de sens, ou n'en a que très peu. Mais pendant que je m'exerçais à faire cette conférence, j'ai découvert que si j'étais capable d'improviser, ce n'était que de cette manière. Et pourtant, je ne savais pas si je serais capable de le faire en face d'un public. Quand j'improvisais tout seul, j'utilisais toutes les ressources de ma voix, avec tous les éléments de langage que j'ai à ma disposition, mais sans parvenir à des mots connus ou à une syntaxe. J'ai trouvé cette expérience passionnante. Quant à mon texte, j'ai remarqué à deux reprises, en prononçant ma conférence en Virginie et à Philadelphie, que beaucoup de gens dans le public étaient soudain extrêmement heureux. Ils se sentaient tout à coup libérés, oui, presque immédiatement délivrés de toutes ces contraintes du langage que nous estimons une fois pour toutes fixées et que nous imaginons impossibles à supprimer.
Et vous libérez aussi la typographie, par le hasard.
Pour mettre à l'épreuve l'apparition d'un sens ou l'impossibilité. Oui, il y a le multiple que j'ai réalisé avec le designer Calvin Sumption. C'était en 1969 et cela s'appelle « Vouloir ne rien dire à propos de Marcel ». C'est un hommage à Marcel Duchamp. Mais je ne voulais rien dire sur Duchamp, comme l'indique le titre. Alors j'ai soumis un dictionnaire au Hiking. J'ai tiré au sort des mots, puis des lettres à partir de ces mots, et leur disposition dans l'espace. J'ai réparti ces mots selon une typographie également due au hasard sur des feuilles de plexiglas. Sur un socle de bois, 8 feuilles de plexi ont été dressées parallèlement les unes aux autres. Ainsi, on voit des lettres en profondeur, elles se superposent et se combinent au regard. Il y a 4 socles supportant chacun 8 feuilles. L'ensemble vient du hasard, y compris les couleurs. C'est un objet qui n'a pas de sens et dont on ne peut dire qu'il renvoie un texte. Et pourtant, il me semble que Duchamp aurait été, selon sa propre expression, amusé par cet objet.
Celui-ci prolonge, si je comprends bien, vos textes littéraires proprement dits, par exemple ceux qui ont fait l'objet de tirages au sort dans le Silence ou A Year from Monday.
Dès que l'on excède le niveau du mot, tout change. Mes essais au niveau des livres que vous citez ne portaient pas sur la question de l'impossibilité ou de la possibilité du sens. Ils supposaient que le sens existe.
Votre façon de poser le problème de la parution du sens ne peut-elle être comparée avec la manière dont les lettristes envisagent leur propre démarche ? Ils font comme vous, ils échantillonnent un nombre, lui-même dû au hasard, de lettres ou d'éléments du langage. Ils assemblent ces lettres et parviennent, de lettres en pseudo-mots et de pseudo-mots en pseudo-phrases, à constituer l'homologue apparent d'un langage. Mais ce langage n'est pas un langage.
Moi non plus, je ne prétends pas parvenir à un langage.
Mais les lettristes considèrent que le non-langage auquel ils parviennent n'est pas de la poésie, ni de la musique.
Comment peuvent-ils échapper à la musique ?
Ils distinguent le lettrisme, qui ne prescrit à la voix qui le scande aucune hauteur, et la musique, qui fait fond sur les hauteurs et les instruments.
Voilà qui me paraît énigmatique. La musique, telle que je l'envisage, peut fort bien se séparer des instruments et de la notion de hauteur.
Il est vrai que la conception de la musique à laquelle s'en prennent les lettristes n'est pas la vôtre. Et ils ne font, autant que je le sache, que très parcimonieusement allusion à votre démarche. Ils doivent vous prendre pour un disciple attardé de Rousselot.
De toute façon, mes œuvres musicales, proprement dites, ont pu soulever l'indignation ou la sympathie. Ce n'était rien comparativement à mes livres. Vous n'imaginez pas combien de gens ont pu être touchés par Silence. J'ai reçu de très nombreuses lettres, parfois extrêmement lucides, toujours intéressantes. À côté, les réactions à ma musique sont prévisibles.
Puisque vous avez fait allusion à Silence, comment avez-vous composé ce livre ? Il a bien fallu que vous choisissiez vos propres textes pour les faire aller les uns avec les autres.
Ce choix, ce n'est pas du tout moi qui m'en suis rendu responsable. C'est simplement un résultat. J'avais donné en effet aux gens de la Wesleyan University tout, absolument tout ce que j'avais écrit. Le choix s'est effectué en dehors de ma présence et de ma responsabilité, ainsi que l'ordonnance.
Ce livre ne vous appartient donc pas ?
Si. Il y a une idée dont je réclame la paternité, celle d'avoir réparti des histoires ici et là. J'ai aussi à mon actif quelques suggestions à propos de l'ordre qui a été choisi pour l'ensemble du livre. Pour le reste, je pense que mon éditeur de la Wesleyland a fait du bon travail.
D'où vient le titre ?
De moi. Le livre a été rassemblé avant qu'on ne lui trouvât un titre. Et il m'est apparu, quand j'ai ainsi parcouru mon œuvre, ou ce qui allait devenir mon œuvre, que l'expérience que j'avais eue à la chambre anéchoïde de Harvard était un tournant. J'avais pensé réellement et naïvement qu'il existait quelques silences véritables. Mais je n'avais jamais cherché à situer ce silence, à le localiser. Je ne m'étais donc nullement posé la question du silence. Je n'avais pas vraiment mis le silence à l'épreuve. Je n'avais jamais recherché son impossibilité. Quand j'entrais donc dans cette chambre anéchoïde, je m'attendais réellement à ne rien entendre, sans avoir songé à ce que cela pouvait être, de ne rien entendre. À l'instant où je m'entendis moi-même, produisant 2 sons, celui des battements de mon sang et celui de mon système nerveux en opération, je fus stupéfait. Cela a été pour moi le tournant.
Alors vous cessez apparemment de composer. comme Duchamp avait apparemment cessé de peindre après le grand verre.
Oui, il a fait semblant d'arrêter, tout en continuant. Vous connaissez son œuvre posthume.
La mariée nue, j'ai lu le texte d'Yves Alainbois.
C'est tout Duchamp. Il a passé 20 ans, 10 de plus que pour le grand verre, à collectionner tous les objets de collage extraordinaires. Il a construit un mur avec des briques qu'il faisait venir d'Espagne. Il a modelé lui-même avec du plâtre sur lequel il a tendu une peau de porc, le corps de femme que l'on entrevoit à travers deux trous de la vieille porte. Et tout cela en faisant semblant de ne rien faire.
La critique vous relie perpétuellement à Duchamp. Les différences entre vous sont pourtant évidentes. Non seulement vous n'avez pas cessé, en fait, de composer, mais vous n'avez jamais tenté de persuader qui que ce soit de votre silence. Cependant, vous avez composé en vous niant vous-même comme compositeur. En un sens, vous êtes à la fois très proche de Duchamp et un anti-Duchamp. Votre usage du silence n'est pas le sien.
Je dois avouer que cette contradiction, composer et ne pas composer, elle me hantait depuis longtemps. Vous connaissez l'histoire de mes rapports avec la psychanalyse. Elle est brève. Cela doit être vers 1945, je me trouvais perturbé. Des amis m'ont conseillé de me faire psychanalyser. Tout ce que le psychanalyste a pu me dire, c'était que grâce à lui, j'allais pouvoir produire plus de musique, des tonnes de musique. Je ne suis jamais revenu.
Et faut-il voir alors, dans ce que vous appelez silence, après votre revirement, un accomplissement de ce style de vie que vous souhaitiez et que je ne vois comment caractériser, sinon par cette expression de Jean Grenier, une création incoative?
C'est la vie poétique.
Pourquoi tenez-vous à ce mot, poésie?
Il y a poésie dès lors que nous réalisons que nous ne possédons rien.
Mais si le livre intitulé « Silence » traduit bien votre pensée, il aurait dû rester sans suite. Ou du moins, la suite devait s'appeler également « Silence ».
C'est que je ne possède pas le silence.
Alors d'où est venu votre deuxième grand titre, « A Year from Monday » ?
D'un plan que nous avions formé avec un groupe d'amis, de nous retrouver à Mexico lundi prochain dans un an. Nous étions réunis un samedi, et notre plan n'a jamais pu se réaliser. C'est une forme de silence.
Votre second livre est très différent du premier.
Il y a des questions, surtout de changement. En ce sens, il touche à des plans. Ou du moins, il englobe quelque chose du futur, la visée d'un avenir. C'est-à-dire, quand j'ai pensé à ce titre, il y avait en moi un nul pessimisme, contrairement à ce que vous pourriez déduire de mes explications, ou encore du fait même que notre plan a échoué. Du fait que nous avons été incapables de nous rencontrer, rien n'a échoué. Le plan n'était pas un échec.
Vous devez dans cet ouvrage beaucoup de vos textes au hasard. La proportion de hasard par rapport à silence y est élevée. Et la différence avec silence réside aussi dans la typographie. Celle-ci y est beaucoup plus variée.
C'est une façon de livrer mes idées. Celle-ci, en partie sous l'influence de McLuhan, ont concerné de plus en plus les médias.
On s'est parfois élevé contre l'aspect de mosaïque de la composition de la galaxie Gutenberg. Pourquoi un livre devrait-il refléter dans sa forme les innovations du contenu ?
Peut-être parce qu'il n'existe pas entre la forme et le contenu la différence que ces critiques croient devoir faire.
N'y a-t-il pas de contradiction à affirmer tout au long d'un ouvrage que la notion même d'ouvrage ou de livre est désuète alors que l'on consacre de nombreuses pages à montrer cette désuétude ?
La Gutenberg Galaxy est faite d'emprunts et de collages à toutes les régions du savoir. McLuhan applique ce que l'on appelle le silence, c'est-à-dire qu'il les laisse parler. La mort du livre n'est pas la fin du langage, comme celui-ci continue. Exactement comme chez moi, le silence a tout envahi et il y a toujours de la musique. Il y en a même de plus en plus. Toute psychanalyse une fois écartée. Grâce au silence, les bruits entrent définitivement dans ma musique et non pas une sélection de certains bruits, mais la multiplicité de tous les bruits existants ou qui adviennent. Les changements typographiques comme la forme mosaïque, ce sont les bruits qui font irruption dans le livre. À la fois, il y a une condamnation du livre et le livre s'ouvre. Il peut tout accueillir.
Le livre n'est plus à coup sûr cet outil linéaire dont nous avions appris à nous enorgueillir.
C'est qu'il peut tout recevoir. Et il le fera d'autant mieux qu'il brisera toutes les conventions restrictives, toutes les formes d'organisation, toutes les normes, la typographie comprise.
Pour les oiseaux, une mise en voix d'Étienne Noiseau et Jean-Marc Montera, des entretiens de Daniel Charles avec John Cage. La suite, demain, 9h30, rediffusion 15h30.